Messieurs, dames, bonjour, c'est l'heure de la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Vous êtes les bienvenus. Les titres. La conférence de haut niveau sur la croissance inclusive en RDC a formulé une cinquantaine de recommandations. Toutes ces recommandations vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations par la création d'emplois. Il va alors falloir que les politiques en assurent la mise en œuvre. Nous revenons également sur la question relative au prix du carburant qui ne baisse pas en RDC, alors que sur le marché mondial, le baril est en deçà de 50 dollars américains. Le point de vue du gouvernement, il faut jouer à la prudence du fait que cette situation n'est pas liée à une crise économique, mais la crise, elle est bien politique. Alors que le service de la quarantaine animale et végétale avait décidé d'isoler de toutes les formalités de dédouanement les 25 containers d'huile importée par Help the Children, et en attendant que la commission d'enquête judiciaire finisse son travail d'analyse de la qualité de cette huile, nous avons appris cette semaine des tentatives de Jean-Pierre Tofongué agissant au nom de l'employeur à faire sortir ses marchandises des entrepôts. Voilà pour les titres et nous recevons le professeur Mupinganaï pour des analyses et commentaires. Monsieur le professeur, bonne année, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
À vous, monsieur le journaliste.
Merci. Panorama économique, le dossier.
Et rapidement, la synthèse de la semaine, premier dossier de la semaine. Nous revenons sur la clôture le week-end dernier à Kinshasa de la conférence de haut niveau sur la croissance inclusive en RDC avec une cinquantaine de recommandations à la clé.
Toutes les recommandations vont dans le sens de trouver une issue à la redistribution de la richesse nationale. Selon les conférenciers, il y a eu des exposés sur quasiment tous les secteurs de l'économie de la RDC. Écoutons ce résumé.
La première session a tablé sur les ressources naturelles qui sous-tendent jusque-là l'économie nationale, la croissance et comment éviter que les richesses naturelles ne se transforment en malédiction. En plus des institutions fortes que doit se doter la RDC, la conférence recommande au gouvernement congolais
de restructurer les patrimoines de la GKMIN pour lutter contre les pertes de dividendes dues entre autres à la vente de ses actifs miniers, aux mauvaises pratiques comptables des entreprises minières, notamment par la sous-évaluation des chiffres d'affaires, poursuivre la stabilité du taux de change et de l'inflation à l'effet de préserver le pouvoir d'achat de la population.
Une autre session a porté sur la lutte contre la pauvreté et l'inclusion agricole. Elle vise à diversifier l'économie congolaise.
Étant donné les rôles majeurs que joue l'agriculture dans la réduction de la pauvreté, surtout dans les zones rurales, accorder un soutien institutionnalisé aux petits agriculteurs, assouplir la fiscalité agricole pour un meilleur attrait des investissements privés spécifiquement dans les chaînes de valeur ou les processus de transformation.
La redistribution de la richesse nationale passe aussi par le marché du travail. Et pour que le marché congolais de l'emploi réduise sensiblement le chômage et l'exclusion, les conférenciers proposent au gouvernement
d'investir de manière solide dans la formation technique et professionnelle et la santé pour augmenter la productivité du capital humain. D'investir davantage dans les secteurs de l'énergie pour la promotion de l'industrie.
Les conférenciers ont dit avoir fait le travail qui leur a été demandé. Reste à présent que les politiques s'en approprient pour que la croissance économique devienne effectivement la croissance en termes de conditions de vie de la population. Deuxième dossier de la semaine, le prix du pétrole est en deçà du seuil de 50 dollars américains le baril sur le marché international, mais en RDC, le prix du litre à la pompe est resté inchangé depuis la dernière hausse.
Alors pourquoi cette baisse à l'international n'entraîne-t-elle aucune incidence sur le prix du litre à la pompe en RDC? Et la réponse, c'est le ministre de l'économie qui vous la donne. Cette question était inscrite au menu de la Troïka stratégique de la semaine dernière autour du Premier ministre. La Troïka a opté pour beaucoup de prudence du fait que cette baisse est consécutive à une crise politique et non économique. Prudence, car les choses peuvent rapidement reprendre et dépasser des entendements. On écoute Modeste Bati-Loukebo, ministre de l'économie, au sortir de la réunion de la Troïka stratégique.
S'agissant du pétrole, comme vous le savez, le prix du pétrole continue à baisser sur le plan international. Mais ceci peut s'expliquer par des éléments qui ne sont pas des éléments objectifs du marché, donc qui répondent à la loi de l'offre et de la demande. Il faut plutôt voir ici des actions politiques en direction de la Russie qui tire le gros de ses ressources du pétrole. Et donc c'est une situation volatile qui peut du jour au lendemain connaître des hausses et même des hausses vertigineuses. C'est ce qui appelle le gouvernement à la prudence pour que on ne puisse pas suivre les soubresauts du marché du pétrole. Et donc nous continuons à observer de manière à ce qu'on puisse consolider le prix à la pompe, et au moment venu nous allons examiner cette situation.
Et aux dernières nouvelles, nous avons appris le mercredi que le ministre de l'économie a eu un entretien avec les opérateurs pétroliers. Il leur a demandé de vider les anciens stocks, de se réapprovisionner et d'envisager une revue à la baisse du prix du litre à la pompe. Donc c'est un dossier à suivre, François.
Voilà, Daniel, nous allons prendre le dernier dossier.
Et le dernier dossier de la semaine, justement, revient sur les containers d'huile végétale avariée importée par Help the Children après que le service de la quarantaine animale et végétale ait décidé d'isoler de toutes les formalités de dédouanement ces containers. Une commission d'enquête judiciaire est mise en place pour analyser la qualité de cette huile. Mais déjà, M. Jean-Pierre Tofongué, agissant au nom de l'importateur, avait demandé à ce service de la quarantaine de sortir cette huile en dépit du dépassement des dates de péremption pour le triage, chose qu'il n'a pas pu obtenir. Et suivez plutôt ce reportage.
Dans une correspondance adressée à sa hiérarchie en date du 27 juin dernier, le chef de division du service quarantaine animale et végétale de Kinshasa avait indiqué que l'importation de 25 conteneurs d'huile de Help the Children est entachée d'irrégularités techniques pour n'avoir pas été autorisée par l'inspection urbaine de l'agriculture. Et l'ouverture des quelques 3 conteneurs a prouvé que cette huile ne répond plus aux normes de salubrité pour dépassement de délai de péremption. Sur ces, tous les conteneurs ont été saisis sur base d'un procès verbal pour leur destruction totale conformément aux conditions prévues par la loi. Le représentant de Help the Children avait même refusé de signer ce PV, avait-il indiqué dans cette lettre. Selon certaines informations en notre possession, le propriétaire de ces conteneurs d'huile serait en train de se battre pour obtenir la sortie de sa marchandise de l'entrepôt. Informé, l'association des consommateurs du Congo s'est également saisie du dossier qu'elle suit de près. Toujours par rapport à ce dossier et pour raison d'enquête, une réquisition du procureur général de la République qui date du 6 janvier dernier demande le prélèvement des échantillons de cette huile végétale pour analyse. Cette commission qui doit dire si cette huile est ou n'est pas propre à la consommation humaine a été confiée au professeur Jean Kaimbe du département de chimie, faculté des sciences de l'université de Kinshasa.
Merci François pour cet élément, et c'était ça la synthèse de la semaine. Professeur, notre invité, le professeur Mopinganaï, professeur, vous avez suivi ces éléments de la semaine, mais ce qui nous a intéressé plus et ce qui a motivé votre invitation, c'est parce que vous avez été participant à cette conférence de haut niveau sur la croissance économique et inclusive en RDC. Quels commentaires vous en faites, vous, personnellement, quelle analyse vous en avez faite, et puis après, vous pourrez peut-être répondre à nos éventuelles questions.
Oui, merci bien, monsieur le journaliste. J'ai assisté, j'ai été édifié par le nombre des orateurs, et surtout l'initiative d'engager un débat sur une question qui concerne tout un peuple. Parce que depuis plusieurs années, on nous parle de la croissance. On a même ajouté une espèce d'épithète, croissance inclusive, ce qui n'est pas permis par la doctrine. Dans la doctrine, il y a croissance économique tout court, sans épithète.
Alors quand il y a une épithète, c'est que c'est un élogisme.
C'est une entorse, hein, la doctrine. Nous ne pouvons pas gérer l'économie sans référence à la doctrine. Mais l'intérêt était d'engager un débat pour qu'on sache c'est que l'année de la croissance économique dans notre pays. Ce qui m'a réjoui le plus, c'est aussi, je crois que ce n'est pas passé dans votre interview, la convocation de notre forum sur la croissance économique,
voilà, ouais,
qui aura un caractère purement national. Et j'espère que c'est à ce moment-là que nous allons décortiquer ce que je pourrais considérer comme le non-dit. Parce que la croissance, j'ai signalé tout à l'heure, selon la doctrine, il n'y a pas de croissance inclusive. Il y a croissance tout court. Et la croissance implique l'accroissement des richesses dans l'ensemble de l'économie, située dans un temps en considération de la population bénéficiaire justement de la croissance. C'est ainsi que la croissance, selon la doctrine, doit être évaluée par tête d'habitant. Et si nous appliquons cette doctrine, il est possible que l'on trouve qu'il y a des distorsions graves entre ce qui est présenté officiellement et ce qui se vit sur terre.
Mais c'est à cause de ça justement que le gouvernement a voulu organiser cette conférence pour que des têtes pensantes se mettent ensemble pour lui montrer le chemin. Comment alors arriver à mesurer cette croissance par tête d'habitants?
Bon, mais ça c'est facile à faire si on tient les statistiques. Dans la gestion de l'économie, on y arrive. J'ai déjà
Vous revenez avec, vous revenez sur votre doctrine. Puisqu'on n'a pas de statistiques, c'est difficile d'y arriver.
Oui, il faut réhabiliter le système statistique, vraiment avec urgence. C'est ça. La croissance économique implique aussi l'intervention de progrès techniques. Dans le débat qui a été fait au Grand Hôtel, on a quelque peu marginalisé
la technologie, oui, dans les...
parce qu'on ne peut pas réaliser la croissance sans intervention de la technique et de la science qui sont en sourdine dans notre pays, parce que le progrès technique induise la productivité de facteurs. Si vous observez bien ce que c'est dit de la croissance économique aux États-Unis, on nous dit qu'il y a une flambée des investissements dans le secteur privé, ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Il y a le plein emploi des facteurs de production. Le chômage a été réduit à sa plus simple expression. Mais chez nous, ce n'est pas encore le cas. Mais si les États-Unis sont arrivés à de tels résultats, c'est grâce au progrès technique et à l'innovation qui sont à l'heure du jour dans les pays civilisés comme les États-Unis.
Mais professeur, vous ne pensez pas que dans un pays comme la RDC aujourd'hui qui traîne à prendre l'envol, si aujourd'hui on y met trop de la technique, là, une machine peut travailler à la place de 5 000 personnes et puis ce sera une façon d'encourager le chômage. Est-ce qu'il ne faudra pas plutôt créer un emploi qui demande à ce que la tête humaine, les bras, la force humaine se mettent au travail?
Mais pour créer l'emploi, vous allez recourir à l'outillage. Cet outillage-là doit avoir un état de production qui permet la haute productivité et du travail de la machine elle-même. Donc c'est le passage obligé. Nous n'avons pas demandé des excuses sur ce plan-là. Donc il appartient au pouvoir public de promouvoir l'innovation et la technique pour que ces deux facteurs accompagnent la croissance économique. Nous en avons et le moyen et le paysage.
Que direz-vous par rapport à ce qui a lieu? Il y a d'autres analystes qui ont dit que c'était une conférence de trop et on a dépensé beaucoup d'argent pour faire venir des professeurs d'université, des États-Unis, de l'Europe, tout ça. On pouvait bien raisonner avec les Congolais, on trouverait une solution. Ou d'autres disent carrément il ne fallait pas que ce soit des scientifiques, il fallait que ce soit des décideurs, des Chinois qui sont des pays émergents. On copierait l'exemple du Brésil. Brésil, qui est un pays émergent, puisque la RDC veut s'inscrire sur cette ligne-là, devenir un pays émergent, il fallait faire venir les Chinois, il fallait faire venir les Brésiliens, et quel modèle encore des pays émergents? Qu'est-ce que vous dites par rapport
à ça? Moi j'ai salué l'initiative du gouvernement d'inviter les savants de tous les horizons. Parce que ce sont les étrangers qui ont audience dans notre pays. Nous, les experts congolais, bon, nous pouvons bon parler. Bon, quel est le degré d'écoute de la part des dirigeants? Mais il y a des choses dures qui ont été dites à cette conférence-là en termes diplomatiques pour reproduire pratiquement les discours que nous tenons ici au Congo.
Comme quoi, par exemple?
Mais ils ont dit que si la bonne gouvernance n'est pas l'ordre du jour, la croissance économique ne sera pas approchée.
Et c'est ce que les scientifiques congolais disent aussi.
Les congolais disent ça. Mais ils l'ont dit. Ils disent que si d'ici 30 ans, la bonne gouvernance n'est pas l'ordre du jour, on risque de ne pas atteindre les résultats recherchés. Alors, ce que les amis scientifiques d'autres pays n'ont pas dit, c'est, comme je viens de le souligner, l'intervention de progrès techniques dans l'approche justement de la croissance. Mais par contre, il y en a qui sont allés trop loin en liant le développement démographique à la croissance.
Justement. La population, c'est le cas de la Banque mondiale
ça, c'est un discours dépassé. C'est un discours dépassé. Je crois que
vous produisez beaucoup et entre-temps, il y a trop de naissances.
Non, je vais vous dire. Du temps de Malthus, ce discours avait une certaine audience. À l'heure actuelle, avec le progrès technique, lorsque la population s'accroît au rythme donc selon la progression géométrique, les progrès techniques peuvent augmenter les richesses au rythme exponentiel. Donc par conséquent, là où il y a le progrès technique à l'honneur,
mais la démographie peut prendre l'échelle comme elle veut.
Oui.
Le progrès technique va l'étouffer.
Le progrès technique résorbe justement l'accroissement de la population. Mais si on combat justement l'accroissement démographique dans ces pays-là, tout en ayant à l'heure du jour la pédale sur
la technique,
c'est un problème d'espace. C'est simplement un problème d'espace. Parce que quand vous allez dans les pays d'Europe, parce que prenons l'Europe que nous fréquentons le plus souvent, mais quand vous arrivez là-bas, l'appétit disparaît. Parce que vous pouvez manger n'importe quoi, n'importe quel moment. Mais ils n'ont pas d'espace. Prenons la Belgique. Vous mettez l'accent sur l'accroissement démographique, mais vous allez vous étouffer parce qu'il n'y a plus d'espace. Ici, nous avons l'espace, on ne peut pas faire valoir l'argument
de la démographie.
Bon, on fait valoir là parce que nous sommes dans le contexte de la civilisation électromécanique dans laquelle Malthus a produit cette théorie. Mais ceux qui sont au laser, comme les États-Unis, ainsi de suite, l'aspect démographique ne tient pas debout. Donc, si nous voulons comprimer les effets déprimants de la démographie sur la croissance économique, il faut mettre l'accent sur le progrès technique et sur l'innovation.
L'idée maîtresse qui a dirigé les travaux, même la convocation, qui a motivé la convocation de cette conférence, professeur, c'était de tracer les jalons, de voir comment arriver à redistribuer la richesse nationale, à faire participer un grand nombre de gens à la richesse nationale. Comment vous envisagez cela, en dehors de ce qui était dit, ou vous avez partagé ce qui...
Non, je n'ai pas fait rien. Le président de la République a déjà tranché. Lorsque il a tenu son message devant le Congrès, il a mis l'accent sur l'industrialisation du pays. Les ressources naturelles que nous extrayons doivent être transformées en molécules plus utiles. Alors la transformation fait appel aux facteurs de production qui sont en sourdine, comme le travail. À ce moment-là, on va développer le travail, accroître le volume du travail, c'est-à-dire l'emploi, et donner les revenus à plusieurs ménages. Alors à ce moment-là, nous allons créer ce que nous avait dit les multiplicateurs. Mmh. Hein, les investisseurs vont se jeter à l'eau, comme c'est le cas aux États-Unis, donner de l'emploi. Et les gens vont consommer, la consommation va générer aussi des investissements additionnels. Donc ça va faire boule de neige. Donc le multiplicateur va jouer. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur cet aspect-là, que l'on crée l'industrie. Nous en avons les moyens et nous en avons les atouts. Pour que, pour le moment, le président a regretté que de Kasumbalé, ça, jusqu'au à la frontière, les richesses se passent presque pour rien. Hein? Mais si nous transformons ces richesses, nous allons multiplier la plus-value par 10, même par 100.
Et ça
c'est ça qui fait la croissance.
Et c'est ça qui fait la croissance.
C'est ça qui fait la croissance, justement.
Et nous allons, et nous vous gardons, professeur, le temps de prendre la suite de l'émission. Nous revenons à vous pour continuer les analyses sur cette conférence de haut niveau sur la croissance inclusive.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Le reste de l'actualité économique en plus bref, fraude généralisée dans les opérations de dédouanement des marchandises, laisser-aller, complaisance, désordre organisé au poste douanier de Kasumbalé, Sao Katanga. C'est le constat fait par le Premier ministre lors de sa descente lundi à ce poste douanier. À cet effet, Henri Yave Moulang, ministre des Finances, a instruit le directeur général de la DGDA de procéder sans délai au changement de tous les responsables de la DGDA Katanga à tous les niveaux et à tous les postes douaniers de la province. Il a par ailleurs procédé à une nouvelle mise en place à la Direction Générale des Impôts et à la DGRAD Katanga.
Et puis le gouvernement provincial a pris l'option de démanteler tous les lieux de vente dits marchés pirates. Nous sommes dans le Kasaï oriental, en Mbujimayi. Un moratoire d'une semaine est donné au maire de Mbujimayi et les bourgmestres des 5 communes pour débarrasser la ville de marchés appelés Malumantonda, qui signifie j'ai beaucoup de problèmes. Ce marché pirate encouragerait la recelle.
Grogne au sein de l'association des cambistes de Bounia-Nitouri. Les membres de cette association ont fait un sit-in mardi au parquet de Bounia pour exiger la libération de deux de leurs collègues accusés par le président d'avoir détourné de l'argent de la corporation. Pour les manifestants, ces deux cambistes sont innocents. Ils accusent plutôt leur président qu'ils menacent par ailleurs de le démettre de ses fonctions.
Province orientale encore. Le pont Gada à l'entrée de la cité de Nyangara, territoire situé à plus de 700 km au nord de Kisangani, est endommagé depuis maintenant près d'une semaine. L'incident est survenu au moment où un grand véhicule plein de marchandises en provenance d'Isiro traversait ce pont. Conséquence, l'approvisionnement de la cité en produits manufacturés est devenu difficile selon la société civile locale. Et puis restons dans la région pour parler de la Direction Générale de Recettes Administratives Domaniales et des Participations qui se félicite de la performance réalisée en 2014. Selon son directeur général, la DGRAD est allée au-delà des assignations lui fixées par Kinshasa. Sur près de 14 milliards de francs congolais assignés à la DGRAD, province orientale, plus de 18 milliards, soit 122%, ont été atteints. Oscar Mombo justifie cette performance, notamment par la prise de conscience des agents ainsi que la nouvelle dynamique consistant à activer certains actes générateurs de recettes. Il appelle les agents à continuer dans cet élan pour faire mieux en 2015.
Et nous allons terminer par la Fédération des comités des pêcheurs individuels du lac Édouard qui dénonce l'envahissement et la destruction de la côte ouest du lac par des activités humaines. Nous sommes dans le Nord Kivu.
Selon cette fédération du sud-est territoire de l'Ubéro, les paysans ont intensifié les travaux champêtres au large de côtes, alors que les pêcheurs clandestins y ont créé plusieurs pêcheries pirates. Les responsables de ces comités basés à Vichumbi indiquent que ces pratiques occasionnent la dégradation des écosystèmes aquatiques avec, entre autres conséquences, la diminution de la production de poissons. Le secrétaire général de ces comités demande au ministre en charge de la pêche la suppression de toutes ces pêcheries pirates.
Merci François. Et nous allons retrouver le professeur Mupinganaï pour terminer cette émission. Professeur, nous avons dit le grand sujet sur lequel nous donnons nos avis, c'est la conférence de haut niveau sur la croissance inclusive. Vous avez dit la croissance, elle est tout court, c'est ça le concept, croissance inclusive, c'est-à-dire se porter en torse à la doctrine. Mais lorsque la conférence propose, par exemple, qu'on restructure un peu la Gécamine, qu'on allège la fiscalité aux ménages pour qu'ils aient accès à la terre pour faire de l'agriculture, ce serait aussi une façon de faire participer un grand nombre de la population à la croissance. Quel commentaire vous en faites?
Bon, écoutez, ces mesures sont les bienvenues, mais elles ne peuvent pas remplacer le processus d'accumulation qui a comme point focal l'industrialisation du territoire. Je reviens là-dessus. Hein?
L'industrialisation.
Oui, il a annoncé la loi
l'industrialisation.
Non, pas l'industrialisation, la sous-traitance.
Oui.
Nous attendons cette loi-là. Si cette loi la sort, on verra dans notre paysage quelles sont les opportunités de sous-traitance auprès des industries minières et auprès d'autres industries. Parce que pour le moment, nous avons un problème d'industrialisation du Congo. Si nous industrialisons comme les autres pays, nous ne sommes pas armés sur le plan technique et d'innovation. Nous allons être confrontés à la concurrence due à la mondialisation.
Et vous avez dit que
Mais si nous appliquons la loi, les opérateurs miniers seront obligés de passer les commandes aux industries locales indépendamment de tracasseries et dû à la concurrence et ainsi de suite. À ce moment-là, nous irons beaucoup plus vite.
Ouais. Et vous avez dit que ce qui vous intéresse, c'est la suite, une des recommandations qui convoquait une autre réunion qui va avoir un aspect national pour discuter de certains. Quel message vous avez adressé lors de ce...
Le message que j'ai, c'est d'abord de corriger la terminologie sur le plan doctrinal. Lorsqu'on dit la conférence et la croissance
inclusive.
Non inclusive, cela signifie un comptoir de bien-être auquel certains citoyens ne sont pas admis. Alors, pour que tout le monde soit admis au comptoir de bien-être, il faut la croissance tout court, qui a des facteurs que nous allons mettre en exergue pour que désormais nous ne puissions pas nous tromper de chemin.
Merci beaucoup, professeur Mupinganaï. Merci, professeur à l'université de Kinshasa. Et c'est par ici que nous terminons Panorama économique. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous. Merci.